Bonjour, bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 90 minutes info. Je vous présente mes invités et les thèmes que nous allons aborder ensemble dans un tout petit instant, juste après le flash de Mathieu Devez. Bonjour Mathieu.
Elisabeth Borne annonce une indemnité carburant de 100 euros pour les 10 millions de travailleurs les plus modestes. Dès début janvier, les Français concernés recevront directement 100 euros sur leur compte en banque pour l'ensemble de l'année prochaine. Pour y avoir droit, il faudra faire une déclaration sur l'honneur via le site des impôts en fournissant son numéro fiscal et sa plaque d'immatriculation. Après avoir dormi 5 nuits devant le Conseil d'État, les 300 migrants ont été mis à l'abri. Ils ont regagné ce matin le campement d'Ivry-sur-Seine, c'est dans le Val-de-Marne. Depuis vendredi dernier, ces jeunes étaient installés dans le cœur de Paris pour réclamer leur prise en charge et l'accès à un hébergement d'urgence. La Chine annonce un allègement général des règles anti-Covid. Le régime souhaite ainsi apaiser la colère populaire et redresser son économie. 10 jours après une vague de manifestations d'une ampleur inédite, dans une dizaine de villes du pays, les manifestants avaient crié leur lassitude de la stricte politique sanitaire, certains exigeant le départ du président Xi Jinping.
Et au programme de notre émission cet après-midi, n'est-ce qu'une question de jour avant de subir les délestages auxquels on nous prépare? Écoutez.
Si l'État n'était pas en mesure de se préparer face à toute éventualité, on lui reprocherait et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire du tout que nous annonçons aux Français qu'il y aurait des coupures de courant pour cet hiver.
Nous allons au-devant de grandes et longues coupures d'électricité, quoi qu'en dise le gouvernement et Emmanuel Macron en premier.
Alors 2 heures de coupure, mais quelles conséquences réelles, vous allez l'entendre pour certains, ça ira bien au-delà.
Nous, ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est qu'une coupure d'électricité, c'est aujourd'hui 6 heures d'arrêt pour nous. C'est 4000 euros un arrêt pour nous, minimum.
Enfin, bien sûr, on parlera d'immigration et du projet de loi à venir. Après le débat sans vote proposé hier, beaucoup de réactions à ces fameux métiers en tension pour lesquels le gouvernement souhaite procéder à des régularisations.
Il va ouvrir un nouvel appel d'air, des gens vont venir, et quand il est expliqué dans les débats, quand M. Dussopt explique qu'à la fin du contrat qui nous aura permis de les faire venir, d'un an, et le titre ne sera pas reconduit. Mais peu importe, ils seront là.
Vous l'aurez compris, la question n'est plus tellement si, mais quand? Quand aurons-nous donc les premiers délestages et où d'ailleurs? On va en parler avec Ludovic Toro cet après-midi. Bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie de vous retrouver. Maire de Coubron, maire UDI de Coubron, merci à vous d'être là. Éric de Rydmaten également, ainsi que Michel Chevalet. Oui. Bienvenue à tous les trois. Et de l'autre côté de la table, on accueille François Pouponi. Bonjour.
Bonjour.
Merci à vous également. Et Pierre Lellouche, je suis ravie de vous avoir tous les cinq en ma compagnie. Alors, les scénarios de la peur, ça n'est pas pour lui. Ça, c'est du Emmanuel Macron. Vous vous en souvenez, c'était hier. Eh bien, vous allez voir que cet avis n'est pas partagé par beaucoup de Français dans cette émission. Alors, c'est pour quand les délestages? Mathieu Rio.
Premier pic de consommation électrique ces prochains jours en France. Un premier, demain à 19h selon les prévisions de RTE. Et un second, plus important, lundi prochain à midi. Avec même la possibilité d'une première alerte orange du dispositif EcoWatt.
Cette alerte orange, c'est en fait la répétition générale de ce que nous allons vivre plusieurs fois pendant cet hiver si les températures chutent en dessous de 0 et tournent autour de moins 4, moins 5 degrés. Là, le réseau électrique français sera sous tension. Oui, il y aura des délestages, des coupures de courant.
En cas d'alerte rouge, des coupures locales d'une durée d'environ 2 heures pourront être organisées. Mais cet expert anticipe un scénario du pire.
Nous ne pouvons pas apporter les 20% d'électricité qui nous manque de nos partenaires européens et donc il va falloir se serrer la ceinture. Nous allons au-devant de grandes et longues coupures d'électricité. Il est possible que nous passions Noël, le réveillon à la bougie.
Hier, le président de la République a vivement rejeté les scénarios de la peur. Il assure que la France tiendra cet hiver.
Michel Chevalet, Noël à la bougie. Vous vous souvenez, il y avait l'expression qui disait.
Mais non. Attendez.
Noël au balcon, pas cotisant. Non, mais sans rire. Noël à la bougie.
Attendez, soyons sérieux. Il a le sens. J'espère qu'il a le sens de l'humour. Non. Pourquoi? Parce que la période Noël, jour de l'an, c'est là où il y a le moins d'activité économique et industrielle. Et donc, EDF vous dira, historiquement, on a une baisse, fort heureusement, de la consommation. Donc, même s'il fait froid, grand froid, ça passera.
D'accord. Mais sur le principe même des délestages, on y aura droit quand même cet hiver?
Je ne peux pas vous le dire avec certitude. La clé, elle est double. Un, c'est la disponibilité des centrales nucléaires. Deux, les possibilités d'importer du courant, surtout du côté des Allemands. Oui, et puis je vais y revenir. Et puis trois, évidemment, c'est la météo. C'est-à-dire, s'il fait très froid, ça va être difficile. Hein. Là, on va vers une alerte. En ce moment, c'est en train de se passer. Finalement, c'est pas mal. Ça permet de faire un bon d'essai, de voir là. Là, on est à 72 gigawatts. On va monter 74. Demain, on va aller vers 75, 76. 80, c'est la limite. Donc, il risque fort d'y avoir une alerte orange. Orange, c'est-à-dire, attention, si ça continue, nous risquons d'avoir des coupures. C'est tout. Voilà.
Pierre Lelouch, si vous êtes en forme aujourd'hui, est-ce que les mots d'Emmanuel Macron, hier, vous ont énervé sur le scénario de la peur ? Ou vous avez tendance à dire comme lui que, bon, quand même, se relaxer un peu, deux heures, c'est pas la fin du monde.
Ça m'a doublement énervé.
Ok.
Et je le dis calmement. D'abord parce qu'en juillet, il nous a dit exactement l'inverse, c'était la fin de l'abondance. Il a essayé de préparer le pays à ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire une période assez difficile et douloureuse, avec une combinaison de facteurs compliqués comme l'inflation, le Covid, la guerre. Enfin, une période très dure. Et le job du président, c'est de préparer le pays. Ça, j'avais compris. Là, je ne comprends plus. Je ne comprends plus ce qu'il dit. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'en fait, il est en train de refiler le bébé aux citoyens en leur disant, c'est votre faute. Maintenant, la responsabilité est dans votre camp. Attention à vos boutons, le col roulé, le machin. C'est vous qui êtes responsable. C'est lui qui est responsable. Attends. Le gouvernement Hollande qui a décrété qu'il fallait fermer 14 centrales nucléaires, c'est pas moi, hein, c'est lui, avec ses alliés écologistes, malheureusement. Celui qui ferme Fessenheim, je l'ai dit sur ce plateau, je me souviens le jour où Angela Merkel a dit à François Fillon, Premier ministre, et à moi, qu'il fallait qu'on ferme Fessenheim, on lui a dit non. C'est pas moi qui ai fermé Fessenheim, c'est lui. Bon, à partir de là, on est dans une situation où nous ne sommes pas prêts. Il y a une guerre. On a voulu être solidaire des Ukrainiens, donc on a arrêté d'importer du gaz. On a voulu être solidaire, très bien, mais on n'est pas prêt. Donc à la fin de la journée, c'est quand même le politique qui est responsable. Là, il est en train de transférer le ballon au niveau des pieds des citoyens. Et c'est pour ça que je suis doublement en colère. Un, parce qu'il se contredit. Deux, parce qu'il est en train de refiler le bébé aux citoyens français, alors qu'il est lui responsable.
François Pomponi, en un mot, il y a une forme d'amnésie quand même chez lui, où on met un peu tout ça sous le tapis et on se fiche de.
Oui, j'étais
des
un
choix
peu étonné de sa sortie, parce que depuis trois semaines, son gouvernement nous prépare. Faites des expériences, regardez, voilà comment ça peut se passer, voilà ce qui va y arriver. Bon, voilà. Donc ils ont préparé effectivement l'opinion. Il a surréagi, là, en disant mais c'est quoi ces scénarios catastrophes ? Parce que si. Alors, soit il a raison lui, et ça passe. Bon, soit il se trompe et dans 15 jours, lorsqu'il y aura les premiers délestages, on va dire mais à quoi il joue quoi. Bon. Non, là, je pense qu'il y a un peu un vent de panique au niveau de l'État parce que son gouvernement, depuis trois semaines, a le même discours en disant attention, attention. Ce qui était une manière de préparer l'opinion et de leur dire soyez raisonnables. Si on fait des efforts, on peut passer. Là, on a un double discours et les gens ne comprennent plus.
Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'implications pratiques, certaines même auxquelles on ne pense pas d'emblée, d'autres qui sont évidentes, bien évidemment. Le transport des élèves, alors ça reste un casse-tête pour beaucoup d'élus locaux. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre sentiment juste après avoir entendu ce responsable de l'Association des maires de France. Pour lui, la clé, c'est l'organisation en amont lorsqu'il s'agit d'élèves.
Contrairement aux communes urbaines, il y a donc les élèves qui se rendent donc dans les établissements scolaires donc par le tram ou par le bus. Nous, on a besoin d'organiser le transport scolaire. C'est toujours compliqué puisque les parents travaillent et si on n'est pas prévenu en amont, on ne peut pas assurer non plus la restauration scolaire. Il peut y avoir un petit traumatisme quand même parce que si les enfants ne sont pas dans des conditions donc optimales, sont perturbés par la nouvelle organisation, donc il faut que nous soyons donc en capacité d'accueillir ces enfants dans de bonnes conditions. Donc à nous aussi donc, de pouvoir mobiliser le personnel communal bien en amont.
Alors c'est ça dans la phrase qui est importante. Il dit à nous de savoir mobiliser adéquatement nos agents municipaux. C'est quoi à vous qui êtes à la tête d'une ville de 5000 habitants, votre plan
contingent ? Déjà vous avez tous les deux raison, j'irai plus loin, c'est du mensonge. Hein. Complètement du chef de l'État, il faut que ça s'arrête un peu. C'est-à-dire qu'il nous envoie tous les ministres, mais là ça va au-delà. Nous on a été convoqués en préfecture hier. C'est-à-dire que les préfets nous disent, j'ai là la chronologie du plan. Okay, c'est-à-dire qu'on va tout s'appliquer. On le saura la veille à 17h si vraiment il ferme. Comment vous voulez dans une mairie, la veille à 17h, qu'on puisse en rendre marre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Les parents, ils ne vont pas savoir. on va être obligé de fermer l'école parce qu'il n'y aura pas de cantine, on ne peut rien chauffer. Ils vont tous venir, les parents, l'école est fermée parce qu'il n'y a pas de chauffage. On a là, c'est pas seulement les citoyens là, qu'on reporte, c'est sur les maires. Alors qu'on ne s'est jamais servi des maires, les décentralisés. Quoi. Comme ils n'y arrivent pas là-haut, ils se rendent compte, à peine qu'on va aller voir les maires.
Oui.
Avec des dotations globales de fonctionnement qui diminuent. Eh là-haut, on ne va pas faire votre boulot. Vous vous êtes trompé, vous n'avez pas anticipé, vous n'avez rien appris. Eh, on le savait que ça allait arriver. Alors maintenant, on a un président de la République qui dit « calmez-vous, ça n'arrivera pas ». Et les services de l'État me convoquent là et me convoquent dans 10 jours. Qui ment ?
Mais une question pour aller dans le même sens. Les ARS appellent les pharmaciens en disant « on va sûrement couper ». Et donc, comment on fait pour les stocks de médicaments qui sont au froid ? Il y a un problème technique.
Mais surtout qu'on n'a pas de calendrier de où on coupe et quand on va en.
Alors voilà ce qu'ils nous demandent.
C'est ça qui est aberrant, en fait.
Pardon ?
Parce que c'est ça qui est aberrant. Vu la localisation de nos centrales nucléaires... Le système avait été conçu sous Messmer à l'époque, Pompidou, etc. Il y a peu d'implantations dans le pays. Donc, en fait, c'est assez régional. Si on fait, aujourd'hui, on dit plus coupure, on dit délestage. Bref, si on fait des coupures, autant essayer d'organiser ça au plan régional et de monter en amont pour que les autorités locales puissent gérer. Mais là, ça peut, c'est un peu comme le loto, ça peut tomber sur n'importe qui et à n'importe quelle heure. Et là, ça devient paniquant. Donc c'est là que le président est complètement à contre-pied.
Mais
la panique, elle vient de la désorganisation du truc. Quand en plus, vous avez quelqu'un comme Véran, il n'y avait pas de masque. Et ensuite, il n'y avait pas de problème d'essence. Et ensuite, il n'y a plus de... Personne ne le croit. Donc il y a un méga problème.
Est-ce qu'ils ont cramé leur capital confiance, Éric Derrien-Mathen ? C'est un peu ça la question aujourd'hui.
C'est vrai. Mais d'un autre côté, là, on est en train de se dire, est-ce qu'on va avoir le pire, si vous voulez ? Moi, hier, j'étais avec les patrons du MEDEF. Hein, ils étaient réunis par le MEDEF. Il y avait les patrons de l'énergie. Ils étaient quand même plus confiants. Parce que c'est pas, on a un peu fait peur à tout le monde pour que les gens se mobilisent. La preuve, c'est que EcoWatt a tout de suite été souscrit. Il y a plus 1 million de personnes aujourd'hui. Bon, ça, ils seront prévenus à 17h, effectivement. Donc, ils peuvent s'organiser la veille. Si vous avez effectivement une école qui est fermée, bon, je pense que les gens aujourd'hui peuvent recevoir un SMS de l'école. Enfin, déjà, quand il manque un élève, quand il manque un professeur, vous savez, on prévient tout de suite. On est quand même, moi, je suis un peu quand même surpris parce qu'on prend les gens un peu pour des idiots, si vous voulez. On est capable de s'organiser, à moins qu'il fasse moins 15 degrés. Hein, c'est pas impossible, hein, Michel. S'il fait moins 15 degrés au mois de janvier, là, on aura un vrai problème. Mais apparemment, et j'ai entendu hier que tous les modèles météo sont faits déjà pour janvier, il ne devrait pas y avoir d'énormes coups de froid. C'est ce que j'ai retenu hier dans la réunion du MEDEF,
de
Enedis et de RTE.
Merci. Michel, on va parler de votre dada, les transports. On nous dit, enfin, on a cru comprendre que ce serait plus compliqué à la RATP qu'à la SNCF. Si jamais on coupait en Ile-de-France, qui n'est pas du tout acquis, pourquoi la RATP ?
La RATP, ce n'est pas le centre du monde, c'est le centre de la France. Les villes ont chacune leur compagnie de transport. On prend la RATP parce que c'est même l'agglomération parisienne et ça consomme à peu près l'équivalent de la ville de Nice, la RATP. Alors d'abord la SNCF. La SNCF, le gros consommateur de courant, bon, c'est la traction électrique, c'est le TGV. Un TGV fait les ordres de grandeur. Hein. Que vous ayez même quand vous avez une rame, quand elle démarre en accélération, il y a 400 tonnes à tirer, 800 tonnes quand elles sont accouplées. Ben là, c'est 8000 chevaux. Enfin, les chevaux, enfin, disons 8000 kilowatts. 8000 kilowatts pour une rame. Et donc, c'est le premier gros client industriel d'EDF. Enfin, de RTE. RTE, je sais RTE.
Mais donc, c'est géré directement par RTE.
Alors,
c'est ça la clé.
On y arrive. Alors, le courant. Très haute tension est fournie par RTE directement par les gros câbles qui sont derrière vous à la SNCF, à des gros postes de transformation. Alors, il y en a un certain nombre le long des voies, vous avez vu, le courant c'est 63 000 volts ou 400 000 volts. Voilà. Là, le long des voies, vous voyez de temps en temps, tous les 30-40 km, il y a des postes de transformation pour alimenter la caténaire. Et on l'alimente soit en 25 000 volts alternatifs, soit sur les vieilles lignes, les grosses caténaires, en 1500 volts continu. Voilà. Ça. Donc c'est RTE. Et donc, comme RTE est le fournisseur, directement, ce n'est pas Enedis, il n'y aura pas de coupure. Sauf qu'il y a une trentaine de sous-stations qui sont encore alimentées par Enedis. Donc peut-être là, mais tout ça, c'est un peu interconnecté tout de même.
D'accord.
Donc,
moi, les tramways, par exemple, des villes moyennes.
On arrive. Alors, les tramways, attendez, là, maintenant, on arrive. RATP.
OK.
Allez, RATP.
Je crois que vous ne vouliez pas parler de tramways.
Non, mais il y a des tramways à Grenoble, des tramways à Nantes, fort heureusement. Alors, la RATP, c'est différent. La RATP est alimentée également par sept autour de Paris, gros postes très haute tension, qui aussi sont alimentés en 225 000 volts. Et ces postes vont alimenter ce qu'on appelle des sous-stations qui vont fabriquer le courant 750 volts continu. Voilà. Sauf que là, l'alimentation, certains sont Elédis. Donc, il y a des risques. Et bien, savez-vous, l'économiste veut savoir, la RATP n'est pas alimentée par EDF. La RATP a signé des contrats, vous ne savez pas ça, avec une firme autrichienne, une firme allemande. Les contrats. Hein, j'ai vu ça. Les contrats ne sont... Ça vous surprend?
Donc, c'est une influence. Ben ouais.
Les contrats, donc, logiquement... Ils sont en dehors du réseau Elédis de coupures.
Incroyable. Bon.
C'est comme les stations de ski. Hein. C'est, si vous avez des coupures dans les téléphériques.
Ouais. On va parler aussi des implications, la chaîne du froid, les éleveurs laitiers. Alors ça, on n'y avait pas pensé. Mais tous ceux qui font des laits ou des fromages non pasteurisés, quand ils n'ont pas d'électricité pendant 2 heures, leurs produits sont tout simplement périmés. J'ai juste le temps de vous passer l'extrait de cet éleveur laitier. Qu'on a entendu d'ailleurs, on a entendu un petit extrait de ce qu'il disait sur les fameuses 2 heures qui se transforment plutôt en 6 en ce qui le concerne.
Nous, ce qu'on sait, ce qui est suivant, c'est qu'une coupure d'électricité, c'est aujourd'hui 6 heures d'arrêt pour nous. Si c'est une coupure de 2 heures, on a 4 heures derrière pour vidanger, nettoyer, désinfecter, restériliser. C'est 4000 euros un arrêt pour nous, minimum. Mais c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de nos salariés pendant ce temps-là. Les produits qu'on va perdre, c'est tout ça. Donc, une vraie question autour de ça, c'est comment ça va s'organiser.
Pierre Lelouch, les fromagers, les pharmaciens, les bouchers. En gros, on leur dit à tous, débrouillez-vous. Enfin, on se fiche de vos stocks et de ce que vous aurez produit. C'est un peu ça.
Je vois pas très bien comment faire autrement. Dans la mesure où l'État a été un prévoyant au niveau de la fourniture d'énergie, maintenant, on est en train de gérer les conséquences. Donc, il va y avoir probablement des retombées sur les compagnies d'assurance, donc sur les primes d'assurance, parce que c'est pas franchement des philanthropes, donc ils vont rebasculer le coût des assurances.
Sur les premiums.
Bien sûr, sur les contractants. Et puis, il y a les individus. Il y a combien de gens à la campagne qui ont des congélateurs pour garder leurs aliments? À chaque fois, il y a des coupures. On ne sait pas comment vous organisez ça. Donc, il y a les entreprises, les agriculteurs, les petites boîtes. Il y a énormément de gens qui vont... Les boulangers vont avoir des problèmes. C'est pour ça que je crois que une partie de la solution, c'est d'organiser les délestages, région par région, de façon à ce que les gens se préparent. Mais encore une fois, je n'ai pas du tout l'impression que ce soit fait comme ça. On parle de délestage, mais c'est un peu au hasard.
Ils ont dit,
c'est ça qui est paniquant pour beaucoup de gens. Si en amont, on explique aux gens qu'à telle période, il risque d'y avoir, ils peuvent peut-être se préparer.
On pense aussi aux TPE, difficile, par exemple. Bien sûr. Il va falloir se munir en cash, parce que quand vous voulez aller faire vos courses et que c'est bloqué pendant 2 heures, pas possible de payer avec sa carte bleue.
Pas possible de produire pour les entreprises, de l'industrie, pas possible de vendre pour les commerçants.
Ben oui.
Donc c'est une partie de l'économie, une grande partie économique qui va s'arrêter pendant 2 heures. Et donc ça commence à être un vrai vent de panique. Et je reprends l'exemple du pharmacien que je connais bien qui a dit, mais moi qu'est-ce que je fais avec les produits qui doivent rester au froid pendant un certain temps, à la fin on est obligé de les jeter. Il a dit à l'ARS, est-ce que vous me payez les produits? Est-ce que ce que j'ai acheté comme stock, vous me le... L'ARS a dit, oh bah écoutez ça on n'en sait rien, on verra, on n'a pas réfléchi. Ouais. Voilà, mais c'est des sommes et des sommes qui vont s'additionner. Et c'est comme quand le gouvernement a décidé de fermer les commerces, par exemple, dans le cadre du Covid. Les assurances ont dit, ah bah c'était pas prévu, donc on vous indemnise pas. Donc il a fallu payer des indemnités spécifiques payées par l'État pour dire, bah on vient vous aider en solidarité, etc. Là, voilà, et donc c'est des choses qu'on va découvrir. Mais les commerçants, enfin les entreprises sont extrêmement inquiètes en disant, mais où on va et qu'est-ce qu'on fait? Sans parler, alors l'autre sujet aussi qui paie un vrai vent de panique chez les Français, c'est les téléphones. Et les gens qui disent, mais moi, ma mère, mon père, ils sont seuls avec leur téléphone, ils ne pourront pas le charger, ils ne pourront pas téléphoner. Voilà. Et donc, c'est les réponses qu'il faut apporter. Moi, je partage ce que dit Pierre Lelouch. Ce qu'ils font au gouvernement, c'est qu'il apporte des réponses très vite. On prend l'histoire des personnes qui sont sous
le
ventilateur.
Hein.
La première ministre a dit, on va aller les visiter. Bah oui, mais si on va les visiter et qu'ils n'ont pas d'électricité pour avoir des respirations, ça leur fait une belle jambe. Donc c'est des réponses pragmatiques que veulent les gens.
Allez, un petit mot.
Un mot, il y a plein de pays au monde où il y a sans arrêt des coupures électriques.
Oui, c'est ça.
En Afrique, au Moyen-Orient, ailleurs. Bon, les gens s'organisent depuis longtemps. Il y a des générateurs. Moi, je suis étonné que depuis des mois qu'on annonce ça. Moi, j'ai annoncé ici au mois de juin qu'il y aura des coupures. Parce que c'était évident. Bon, où sont les générateurs pour les endroits sensibles, pour certaines communes, pour les hôpitaux je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des hôpitaux?
Les hôpitaux, oui, a priori, c'est prévu.
Oui, mais
il y a les groupes électrogènes pour les hôpitaux, c'est prévu.
Éric Dorilmaten, votre chronique écho, c'est maintenant. Et d'ailleurs, on va reparler de la SNCF. C'est parti.
Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
Alors c'est un peu la journée de tous les dangers à la SNCF, parce que ça va passer ou casser en termes de négo pour Noël. On va savoir à quelle sauce on est mangé.
Bah oui, écoutez, c'est une journée difficile, je voulais vous en parler, parce que la SNCF négocie actuellement, enfin les syndicats sont avec la SNCF à la direction, et on peut vraiment dire que si ça ne passe pas, les demandes de hausse de salaire, ça risque de casser. Ce sont les NAO, vous savez, ce sont les négociations annuelles obligatoires. Alors en fait, les syndicats mettent la pression au maximum, parce qu'ils ont compris le système, ils ont fait plusieurs grèves à chaque fois au moment des discussions salariale, et ça a marché. Hein. La précédente grève au mois de juillet avait permis d'obtenir 3,7% de hausse. D'ailleurs, je précise que ça avait coûté quand même assez cher à l'État, 1 milliard. Hein. Ça avait quand même coûté très très cher. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, les syndicats disent simplement 3,7% obtenu en juillet, c'est pas suffisant. On a une inflation qui est à 6 ou 7% sur 12 mois à la fin de l'année, donc on veut obtenir cela. Il y en a même qui demandent plus, hein. Ils demandent un 13e mois, parce qu'à la SNCF, vous n'avez pas de 13e mois. Il y a des primes de fin d'année, mais il n'y a pas 13e mois. Vous avez également les profits qui vont être très bons cette année. Au premier semestre, la SNCF a quand même gagné 1 milliard d'euros.
Mais donc tout ce qui est intéressement, participation,
ils ont pas combien de dettes ?
C'est ça, oui, mais on ne parle pas des dettes, on parle des résultats. Mais vous savez, les syndicats, ils mettent la pression. D'accord. Et puis surtout, ils voient arriver la réforme des retraites. Et ils se disent que là, tout est réuni pour avoir un climat social extrêmement tendu. Ils sont même prêts d'ailleurs à rejoindre les cheminots, les contrôleurs, vous savez, qui ont prévu de faire grève à la fin de l'année, hein, les week-ends du 24, 25 et du 31 décembre. Donc ça risque d'être effectivement très chaud. C'est aujourd'hui que ça se joue.
Merci beaucoup, c'était la chronique.
C'était votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
Tu sais, il nous reste quelques minutes.
Tu sais ce qu'il faisait hier, Macron, ouais. Hier, à Tirana.
Bah, il était au sommet des balcons.
Je connais. Ouais. Où il a vu l'ancien clochard qui est habité sur les ponts, qui est aujourd'hui Premier ministre, M. Edi Rama, qui parle français, c'est un ancien peintre, complètement givré, président d'Albanie. Tu sais ce qu'il a été fait ? Il a été distribué 1 milliard d'euros à une bande de mafieux balkaniques qui ont organisé un trafic de migrants de 150 000 migrants cette année qui rentrent sans visa à l'aéroport
via la Serbie.
À l'aéroport de Belgrade.
Pour les vannes. Allez, donc, on va parler
d'un carnet de chèques.
En disant garder, un thème. Tu te rends compte, alors, il fait son propre programme. C'est extraordinaire, Pierre Lelouch. Il va éditorialiser cette émission. On va vous inviter plus souvent. Non, mais on a préparé un thème qui va vous inspirer, je vous assure. Peut-être même vous rappeler des souvenirs. Parce que figurez-vous que cette semaine, on remettait les prix de l'humour en politique.
Ah ben, j'ai eu, moi, ce prix-là.
Ah, vous l'avez eu. Ben voilà, ouais. Vous allez pouvoir nous raconter. Alors, cette année, le lauréat, c'est le député PCF, Fabien Roussel, qui a notamment dit ceci. La station d'essence, ça tombe bien, hein, en ce moment, est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer. Mais il y a plusieurs mentions spéciales. Allez, on va vous montrer le grand prix du jury qui est décerné à Nicolas Sarkozy pour cette phrase. Ce n'est pas parce que tu achètes de la peinture, une toile et des pinceaux que tu deviens Picasso. Valérie Pécresse, elle a pris mes idées, mon programme. Et elle a fait 4,8%. Ouch, ça fait un peu mal. Et puis quand même, mention spéciale pour Édouard Philippe. Vous allez le comprendre. Juste après, on va voir sa réaction après cette petite phrase. Il faut une certaine audace pour que quelqu'un qui a été battu à une élection et était candidat puisse penser qu'il sera élu à une élection où il n'est pas candidat. Évidemment, il faisait référence à Jean-Luc Mélenchon. Écoutez ce qu'il a dit quand on lui a décerné le prix.
Et je voudrais aussi remercier Jean-Luc, sans quoi rien de tout cela n'aurait été possible. J'ai, avec Mélenchon, des désaccords anciens, manifestes, évidents et probablement irréductibles. Mais j'ai pour Jean-Luc une certaine forme d'estime et d'affection. Et d'une certaine façon, je préfère ça que le contraire. Merci beaucoup.
Applaudissements. Alors Pierre Lelouch, pourquoi on vous a récompensé, vous ?
Ah, moi, j'avais sorti une phrase qui est à l'époque où Ségolène Royal était candidate à la présidence de la République contre Nicolas Sarkozy.
2007, donc, ouais.
Elle avait dit qu'elle ne voulait pas construire de porte-avions, qu'elle voulait donner cet argent pour faire des écoles, pas quoi, des chèvres, enfin quelque chose. Et j'ai dit... La Royale veut couler la marine.
Oh, pas mal.
Mignon.
Ah oui, c'était bien senti.
J'ai donc
et vous, François Pouponi, on vous a déjà décerné un prix ?
Non, celui-là, non, j'ai pas eu. Non.
Mais il y a des hommes politiques qui vous ont marqué, c'est-à-dire hommes ou femmes politiques, dont vous pourriez dire aujourd'hui vraiment lui ou elle, il était très, très drôle.
Ah oui, enfin, le plus drôle que j'ai lu, c'est André Santini.
Oui, c'est ça.
Ah, Santini, c'était...
Ah oui.
Et Santini, bon, on est corse tous les deux. Et donc, quand il était à l'Assemblée, on se mettait sur... On faisait un peu comme au village. On se mettait sur un banc et on voyait les gens. Et là, il y avait... Et là, ils distribuaient les costumes. Et là, j'avoue que c'était...
Vous n'avez plus jamais quitté cette place. Quoi.
Ah non, jamais. Parce que c'est,
toutes les sessions.
Enfin, il buvait ses paroles. Et
l'empereur, c'est quand même Churchill. Pardonnez-moi.
Ah oui, mais bon, ça nous concerne un petit peu moins. Ludovic Toro, un petit souvenir.
Un petit souvenir. Déjà, Santini, il est toujours là. Hein. Il est loin de la métropole et il nous fait tout le temps autant marrer. Et ça, c'est important. Je vous rappelle quand même Georges Marchais. Moi, quand j'étais jeune, je m'éclatais. Quand on disait Liliane, fais tes valises, on rentre à Paris. À cause de François Mitterrand qui avait foutu en l'air tout le temps.
Ah oui, c'est vrai, il y a un extrait.
Mais enfin, les communes. Mais il faut qu'on soit marrant, qu'on fasse sourire. Je veux dire, dans un monde commun, si le politique veut être élu, va falloir qu'il déconne un peu plus. D'accord. Et là, pour l'instant. Enfin, qu'il fasse sourire un peu les gens. Quand je dis déconner, il déconne à fond, je suis d'accord avec vous. Mais qu'il nous fasse sourire.
Ah bon?
Un peu de sourire.
Non, ça, Michel, vous en avez fréquenté beaucoup des politiques.
Non,
une phrase
pas
ou un personnage qui vous a marqué.
Non, mais je viens en renfort. Non, j'en ai pas fait.
Non, vous avez fréquenté.
Mais j'ai fait mon service militaire avec André Santini. Avec Dédé. Et déjà. Déjà, dans les chambrées, on gardait les dépôts d'essence à la Courneuve, vous voyez, avec des fusils 17. C'était l'été attentat d'Ouest. Et bon, donc voilà, il y avait Santini qui animait les nuits de garde, déjà.
Voilà. C'était la petite parenthèse détente. On s'interrompt quelques minutes et puis on va revenir pour parler du projet de loi immigration. Je vous en doutez, ça aura du mal à passer, notamment avec la droite. À tout à l'heure.
André, il était président à vie du...
Il est 16h et il est temps de retrouver Mickaël Dorian pour le JT. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Une quarantaine de personnes interpellées après la victoire du Maroc hier en 8e de finale de la Coupe du Monde. Victoire qui a provoqué des scènes de liesse partout en France, mais aussi d'importants débordements comme ici à Paris sur les Champs-Élysées où des dégradations sont à déplorer sur certains commerces. Nous ne sommes pas en train d'annoncer qu'il y aura des coupures cet hiver. Les mots d'Olivier Véran qui tente de rassurer les Français. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé après le Conseil des ministres. Il précise, pour revenir sur les annonces de ces derniers jours, que si l'État n'était pas en mesure de s'y préparer, on lui reprocherait. Eh bien, le secteur des transports s'y prépare, justement. Les opérateurs s'organisent face au possible délestage cet hiver. Si les métros seront épargnés, les tramways risquent en revanche de s'arrêter et la circulation des trains devrait être affectée. Regardez ce sujet de Quentin Gribel et de Aminata Dem.
Des délestages éventuels organisés pendant les pics de consommation de 8h à 13h et de 18h à 20h. Au moment même où les franciliens sont les plus nombreux dans les transports, les métros et tramways étant gérés par la RATP, certaines lignes pourraient bien être mises à l'arrêt.
La RATP, c'est tout de même beaucoup plus sensible. L'alimentation étant différente, le risque de coupure est, à mon avis, beaucoup plus important pour le métro et pour le tramway. Mais la RATP, dans les sous-stations, est équipée de gros groupes de diesel de secours.
La SNCF, plus gros consommateur d'énergie industrielle, devrait être moins touchée par les éventuels délestages, n'étant pas alimentés par Enedis.
Ils sont essentiellement alimentés en très haute tension par RTE. Et donc, étant alimentés directement, j'oserais dire, du producteur au consommateur, sera risque fort peu d'être impacté.
Un recensement des points sensibles du réseau est en cours et doit permettre d'établir des scénarios. Les coupures d'électricité pourront toutefois mettre à l'arrêt les ascenseurs ainsi que les escaliers mécaniques.
Dans le reste de l'actualité, troisième et dernier jour de grève en Iran. Si les magasins sont toujours fermés, les manifestations se poursuivent. Et malgré la répression, les contestations ne cessent de gagner du terrain. Il s'agit de l'une des grèves les plus suivies dans le pays depuis des décennies. La Chine relâche la pression face à la vague de contestations importantes des dernières semaines. La Chine a annoncé ce mercredi un allègement général des règles sanitaires contre le Covid-19, une décision qui met fin à l'essentiel de la politique zéro Covid en vigueur depuis bientôt 3 ans. La Chine était l'un des derniers pays au monde à l'appliquer. Sarah Varni.
C'est un souffle de liberté pour les Chinois. Depuis ce matin, le gouvernement assouplit sa politique anti-Covid. Parmi les nouvelles règles, les personnes infectées mais asymptomatiques devront simplement être isolées à domicile. Les tests PCR seront exigés uniquement pour les écoles, hôpitaux et maisons de retraite. Les confinements seront limités et seront levés si aucun cas n'a été enregistré pendant 5 jours. Un soulagement pour la population.
Notre vie et notre travail sont devenus plus pratiques maintenant parce que nous n'avons plus besoin de tests Covid-19 négatifs pour entrer dans les immeubles de bureaux. D'un autre côté, comme les gens ne font plus de tests, s'il y a quelqu'un qui est infecté, nous ne le saurons pas à temps. Je crois donc qu'il y a des avantages et des inconvénients à cette politique.
Un allègement qui survient 10 jours après une vague de manifestations, un mouvement inédit depuis les mobilisations de Tiananmen de 1989. Dans plusieurs villes du pays, les manifestants avaient crié leur lassitude de cette politique sanitaire stricte. Cette annonce, une manière pour le gouvernement chinois d'apaiser la colère et de relancer son économie, pénalisée par les confinements à répétition et les tests PCR à grande échelle. Un revirement qui semble mettre fin à la politique zéro Covid en rigueur depuis 3 ans en Chine, l'un des derniers pays au monde à l'appliquer.
Et puis Volodymyr Zelensky, personnalité de l'année 2022 pour Time Magazine. Que la bataille pour l'Ukraine suscite de l'espoir ou de la peur, Volodymyr Zelensky a galvanisé le monde d'une manière que nous n'avions pas vue depuis des décennies, a écrit le rédacteur en chef du Time. En 2021, c'est l'entrepreneur milliardaire Elon Musk, patron de SpaceX et de Tesla et qui a racheté Twitter depuis, qui avait été distingué. Voilà pour l'actualité, la suite des débats de 90 Minutes Info avec Nelly Denac et ses invités.
Merci beaucoup, Mickaël, et à plus tard sur l'antenne. Toujours en compagnie de Ludovic Toro, François Pouponi et Pierre Lelouch. Aujourd'hui, on va revenir au projet de loi sur l'immigration qui a été présenté hier à l'Assemblée nationale, mais le début des hostilités, vous l'avez compris, ce sera au mois de janvier, avec un débat déjà très clivant pour un texte jugé flou, parfois contradictoire, on va y revenir largement. Et dans ce contexte, je vous propose d'écouter le diagnostic et même le pronostic en l'espèce d'un ancien patron des services secrets. Un pronostic assez choc, mis en image et en lumière par Vincent Farandège.
C'est un tableau très sombre que dresse Pierre Brochand. Fort de son expérience au sein de la Direction générale de la sécurité extérieure, l'ancien ambassadeur français expose son analyse de l'immigration dans l'Hexagone.
J'estime que de tous les défis qu'affronte notre pays, l'immigration est le seul qui menace la paix civile. L'immigration exerce sur l'ensemble de notre vie collective un impact transversal que je tiens pour globalement négatif.
Pierre Brochand pointe le vivre ensemble impossible selon lui.
Les sociétés multi sont toutes vouées à se déchirer. Nous ne sommes pas plus malins que les Libanais ou les Yougoslaves pour faire vivre ensemble des gens qui ne le souhaitent pas.
Pour l'ancien patron des services secrets, il faudrait diviser l'immigration légale par 10, diviser par 20 ou 30 les visas accordés aux pays à risque, la fin de l'acquisition automatique de la nationalité et supprimer toutes les prestations non contributives.
Pierre Lelouch, il a raison.
Alors, moi j'ai lu ce texte hier soir. Je l'ai vivement recommandé à un certain nombre de mes amis. Je connais Pierre Brochand, bien sûr. Il était en charge de nos services secrets pendant la période où moi-même j'étais au gouvernement. C'est quelqu'un de à la fois très discret et très compétent et très remarquable. Et ce texte est remarquablement écrit et il dit en tout point ce qui est en train de se passer. Ce que moi-même j'avais essayé de dire et d'écrire au fil des années, il le fait de façon très ramassée et très grave. Et à mon avis, il a complètement raison sur le diagnostic. Et le point essentiel, c'est que cette immigration est absolument hors contrôle aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses de dévoyées, y compris le plus récent, c'était le droit d'asile et le sauvetage en mer, qui sont complètement dévoyés. On a une immigration de masse qui se situe autour de 420 000 personnes par an, l'équivalent d'une grande ville française tous les ans, avec des gens qui ont pour caractéristique principale d'être d'une autre culture, d'autres religions, bien souvent absolument pas adaptées à notre société, ni au niveau d'éducation. Et ça crée naturellement des diasporas qui sont en séparation avec la France, avec le territoire national. Toutes sortes de problèmes d'insécurité, de friction permanente et un déclin graduel du pays. Oui, et c'est un constat grave, mais que tous nos concitoyens devraient lire. Ludovic... Et ceux qui ont des arguments contre feraient bien d'avoir de vrais arguments contre.
Ludovic Toro, il dit qu'il faut diviser par 10 l'immigration actuelle. En gros, ce qu'il dit, la dernière phrase qu'on a citée, où on le cite sur le multiculturalisme, ça bat en brèche complètement ce que pense la gauche aujourd'hui du multiculturalisme et de la chance que représente une immigration.
Ce qu'il a dit est important sur une phrase, une immigration qui veut s'intégrer. Une immigration qui ne veut pas s'intégrer, ça aboutira au problème qu'on a aujourd'hui. Alors, il compare toujours des autres immigrations, mais qui sont complètement intégrées, qu'elles soient polonaises, qu'elles soient italiennes.
Ils sont différents.
Oui, ils sont différents, mais ils se sont intégrés. Là, on a un problème d'intégration et de communautés, en fait, qui vivent ensemble. Ils refont leur pays en fait, dans des quartiers. Allez dans les quartiers de région parisienne, vous avez une tour où il y a des Marocains, une autre. C'est ça, ils refont. Donc, c'est la fin de l'intégration. Si vous donnez la possibilité à une communauté de venir dans un autre pays et de recréer son pays dans un autre pays, vous aboutissez à ça. Et c'est la fin de l'intégration.
Quand vous pensez que hier, à la suite du match avec le Maroc, les Champs-Élysées ont été pris en otage, la capitale de l'Europe a été à feu et à sang, Bruxelles, Nice a fait l'objet de violences, et Amiens, la ville de naissance du président de la République, a vu le drapeau de la République remplacé par le drapeau marocain sur la mairie de la ville. Bon, là, on est dans quelque chose qui n'a rien à voir avec le football. C'est de la revendication, de la revanche à l'état brut contre la France, contre l'Europe. Et les manifs que l'on voit aujourd'hui, c'est très intéressant ce qui s'est passé aussi à Doha. La totalité du monde arabe, c'est la revanche contre l'Occident. On est devant ça. Pour des gens comme Brochant ou moi, qui ont été au Liban, qui ont vu les guerres en Proche-Orient,
c'est ça le clash des civilisations de Samuel
Huntington. On est en plein dedans. On est en train de se
créer. C'est du Huntington qui est en train de se produire.
Je pense qu'on a deux problèmes, effectivement. Il y a toute l'immigration post-coloniale que l'on a été incapable de gérer. Et effectivement, un certain nombre de jeunes issus de cette immigration-là sont dans une revanche vis-à-vis de la France.
Bien sûr.
La France leur est redevable de quelque chose, il faut qu'elle paye.
Que certains ont nourri. Hein.
Comme tous les élus
qui
le savent.
Ah, oui. Moi, régulièrement, je demandais à ces jeunes, mais attends, dis-moi combien ça coûte. On paye l'addition, puis on a voulu. Parce qu'à chaque fois, c'était oui, mais vous nous devez, oui, mais on veut ceci, parce que vous devez. Non, on ne doit rien. Bon, ok. Donc il y a cette immigration. Et puis maintenant, il y a une nouvelle immigration qui vient d'Afghanistan, par exemple, ou autre, parfois du Pakistan, avec des populations qui arrivent avec leur mode culturel et qui ne viennent pas pour s'intégrer. Ils viennent, pour certains, pour
le guichet.
Le guichet, et puis pour faire du business. Mais à côté de ça, on ne les accueille pas non plus. Oui. Ils viennent, ils sont là, on ne leur explique pas les règles, et donc ils reproduisent ce qu'ils sont capables de faire, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Et ça, le fait que la France n'ait pas été capable depuis 40 ans de gérer son immigration, de l'assumer, on arrive à une situation qui est...
Vous avez dit quelque chose de très important, on ne leur donne pas les règles.
Ben non.
Donc ils font leurs règles. Si vous donnez à personne les règles, ils vont les faire eux-mêmes. Donc ils vont aller dans un territoire où il n'y a pas trop de règles, puisqu'il y en a quelques-uns, et ils font leurs règles.
Vous savez ce qui est frappant, quand on parlait tout à l'heure des jeunes Marocains. Moi j'étais au Maroc récemment, je vous assure que la conduite des jeunes Marocains au Maroc n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. L'idée d'envoyer des mortiers sur une voiture de police au Maroc, c'est impensable.
Même pas en rêve.
D'organiser des manifestations violentes ou de planter des drapeaux ou faire quoi que ce soit comme ça. Dans leur pays d'origine, impensable.
Donc on en revient à l'autorité.
Ici, juste sur la ghettoisation et la communautarisation, c'est la France qui est responsable.
Oui, bien sûr.
C'est la manière dont on a attribué les logements dans les quartiers, parce que c'est les bailleurs sociaux, les préfectures, qui ont ghettoisé. C'est pas ces communautés qui sont arrivées en disant « moi, je veux aller là-bas », même si elles recherchaient de la proximité avec des gens issus de la même immigration. Mais souvent, la manière dont la France a peuplé ces quartiers, à travers les bailleurs et la préfecture, c'est irresponsable. Alors, on les a ghettoisés, ils se sont regroupés en communauté, et après, on ne comprend pas...
Alors, on va faire écouter d'autres réactions. Vous connaissez tous l'avocat Thibault de Montbrial. Pour lui, l'idée là, de régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension, ça ne va faire qu'ouvrir un peu plus la brèche, le fameux appel d'air. Écoutez.
Quand le gouvernement propose de créer un nouveau titre de séjour sur les métiers dits en tension, quel que soit le sens exact de cette expression, eh bien, en réalité, il va ouvrir un nouvel appel d'air, des gens vont venir, et quand il est expliqué dans les débats, quand M. Dussopt explique qu'à la fin du contrat qui les aura permis de les faire venir, d'un an, le titre ne sera pas reconduit, mais peu importe, ils seront là. Donc retour au problème précédent, ceux qui voudront rentrer chez eux rentreront chez eux, mais ceux qui ne voudront pas rentrer chez eux ne rentreront pas chez eux. Donc en réalité, on va créer un nouvel appel d'air sans avoir réglé la question du retour.
Élémentaire, mon cher Watson.
Non, mais c'est même pire que ça. Reprenons.
Mais il ne sera pas d'accord.
Il paraît qu'il y a des métiers sous tension. Il y a 5 millions de chômeurs en France. Il y a plusieurs centaines de milliers d'offres d'emploi non satisfaites. Commençons par faire travailler ceux qui préfèrent rester chez eux parce qu'ils n'ont aucune raison d'aller travailler. Article 1. Article 2. Nos concitoyens savent-ils que la moitié, je dis bien la moitié des immigrés en France, ne travaillent pas. Ne travaillent pas. Troisièmement, savent-ils que sur les 270 000 visas légaux donnés chaque année, à peine 14% viennent travailler. 14% viennent travailler. Tous les autres viennent, soit pour des histoires de regroupement familial, soit disant pour des études diverses et variées, soit pour des raisons humanitaires. Donc l'idée sur laquelle L'immigration égale travail en France est une fumisterie.
Donc l'immigration choisie, ça existe.
Le niveau de chômage des immigrés en France, c'est 30% comparé à
l'immigration. J'ai été sur le site du ministère du Travail qui liste les 30 métiers qui sont soi-disant demandeurs. Le premier, technicien en mécanique, dessinateur en électricité, régleur, ingénieur, géomètre, couvreur, technicien, chef de santé, tuyauteur, infirmière, numéro 12. Je crois pas que...
L'érythréen sera parfait pour ça.
Mais voilà, charpentier, dessinateur. Regardez cette liste de 30 du ministère du Travail et on va m'expliquer comment on va pouvoir intégrer dans ces 30 des gens qui, hélas, n'ont pas de...
Donc 30% n'ont jamais été à l'école.
J'ai vu que vous n'étiez pas du tout d'accord avec Carlelouche.
Ce que je veux dire par là, c'est que les métiers en tension dont on parle, c'est beaucoup la restauration. Bon. Si on ne régularise pas un certain nombre de travailleurs qui sont dans ces carrières, on ferme les restaurants.
Oui, mais attention, François, attention. Non, mais c'est une réalité. Cette régularisation, elle existe déjà dans les textes.
Mais là, il va falloir passer à une
niveau supérieur. Il est d'ores et déjà possible. C'est pour ça que je parle de fumisterie. Les textes disent qu'aujourd'hui, une personne irrégulière en France, qui a été là soit 3 ans, soit 5 ans, peut avoir une régularisation par le travail. Non.
Les conditions sont relativement...
Allez, on va laisser vous répondre.
On va être obligé de faciliter encore plus la régularisation, d'où ce projet de loi qui dit...
On va être obligé. C'est exactement ça.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre système... Il y a des gens qui ne sont pas régularisables dans les textes, avec les textes actuels, qui travaillent ici... Et ceux-là, on ne peut pas les expulser. Il y a même ce qu'on appelle les ninis, ceux qui sont ni régularisables ni expulsables. Ils sont là, ils travaillent. Donc, à un moment,
il n'y a pas besoin d'une loi nouvelle qui va créer un appel d'air pour régler les problèmes de
régularisation.
Surtout
si ce métier en tension,
elles existent déjà dans les textes.
Si vous avez assouplir certaines règles.
Si vous allez un titre de séjour à quelqu'un qui a un métier en tension, au bout d'un an, comme vous disiez, s'il est plus en tension ce métier, on fait quoi de cette personne ?
Mais c'est ce qu'il disait. Il reste quand même.
Il faut les garder.
Ah, définitivement. Donc, c'est plus la loi qui est prévue. C'est parce qu'ils n'arrivent pas d'appliquer la loi qu'ils trouvent une loi pour.
Est-ce qu'on est capable de les renvoyer ?
Oui, elle existe.
Je répète.
Eh ben oui, malheureusement, ouais, d'accord.
Donc c'est un aveu d'échec. Donc ce projet de loi, c'est un aveu d'échec.
Mais bien sûr.
Sur les OQTF.
Ce débat sur la régularisation.
Ça dure depuis. Tout et le contraire de tout. Vous avez vous-même dénoncé, dans les mêmes termes que moi, une immigration non contrôlée. Et maintenant, venez au secours d'un texte qui est complètement bizarre.
Je viens pas au secours.
Je dis qu'il
y a deux solutions. Soit on est capable de les renvoyer chez eux, et on le fait. Soit on n'est pas capable.
Il dit que c'est sans fin.
Dans ce cas-là, c'est sans fin.
En fait, ce qu'il vous dit,
plutôt que de laisser des gens entre guillemets qui sont ni régularisables, ni régularisés, ni renvoyés chez eux.
C'est un constat d'échec.
Vous dites, c'est logique, c'est la logique dans cet aveu d'échec ou dans cet échec.
Mais c'est le débat qu'il y avait eu à l'époque avec Mitterrand et Chevènement en disant vaut mieux régulariser.
Mitterrand avait régularisé.
Il n'empêche qu'on aurait
peut-être
pas dû en arriver là. Alors pas tous en même temps. S'il vous plaît, on s'entend vraiment plus. Et je pense que de l'autre côté de l'écran, c'est encore pire, en fait.
Qu'est-ce qu'on fait ? On ferme les frontières.
Patrick Stefanini, lui aussi, il en collait un rayon en matière d'immigration.
On a travaillé ensemble.
J'imagine bien. Écoutez ce qu'il disait sur la fameuse idée de Gérald Darmanin concernant la maîtrise de la langue.
Qu'on puisse mieux contrôler le regroupement familial. Ça, c'est le premier enjeu. On a un deuxième enjeu qui est, en effet, de mieux intégrer. Et pour mieux intégrer... il faut mettre en avant la maîtrise de la langue française. Ce que fait le ministre de l'Intérieur.
Oui, c'est ce qu'il veut faire.
Parce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, la France est dans une situation inouïe. On est le seul pays d'Europe où on peut obtenir un titre de séjour de longue durée sans avoir passé un examen de français.
Et alors quoi ? Sinon, on vous renvoie. Mais qui peut sérieusement croire ça, Ludovic Toro ?
Non, mais c'est
si vous ne maîtrisez pas le français, vous n'êtes pas accepté.
Mais non, le problème n'est pas là. C'est que, comme vous disiez, on est arrivé à un moment où c'est fini. On ne peut plus appliquer la loi actuelle. Donc on va changer la loi, tout simplement. Voilà. Et on va faire une ouverture massive. Que tous ceux qui vont se dire qu'ils pourront dans un café, ça ne demande pas de diplôme. Tout le monde peut être dans un café ou dans un restaurant. Vous allez les bloquer. Une fois que la loi va être mise là, tout le monde va arriver. Ça, c'est une chose certaine.
Sur la langue, nous sommes le seul pays. Ils ne réclament aucun niveau
c'est
de
vrai.
Base. Ils sont dans ce qui s'appelle le contrat à l'insertion républicaine, le CIR. Il y a une obligation d'assister à quelques cours.
Qui c'est qui contrôle ?
Mais les cours sont gratuits. Dans d'autres pays, c'est payant. Et il y a des niveaux de contrôle. Il y a ce qu'on appelle le A1 pour le premier papier. Mais pour avoir des longues durées, il faut parler couramment la langue. Dans beaucoup de pays, comme l'Autriche, la queue en France, où c'est complètement ouvert.
Il y a un ou deux rendez-vous à la préfecture. Avec des fonctionnaires qui
écoutez-moi. Si vous voulez vous
intégrer,
imaginez que vous voulez vous intégrer et partir aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez imaginer ne pas parler l'anglais ?
Non.
Eh bien, c'est la même chose. Quand vous les intégrez, c'est la moindre des choses, pas le savoir écrire, mais au moins le savoir parler et le comprendre.
On est entièrement d'accord. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas capable, au niveau européen, de fermer les frontières.
Et on ne veut pas le faire au niveau national.
On ne veut pas le faire au niveau national. On n'est pas capable de renvoyer les immigrés clandestins. Et donc, à un moment, on invente, entre guillemets, des usines à gaz pour dire on va trouver un moyen de les régulariser.
On en est à la
29e
usine à gaz en 30 ans.
Allez, on va regarder une citation. On va finir ce thème sur une citation de Michèle Tribala, que vous connaissez peut-être. C'est une chercheuse à l'Institut national d'études démographiques. Il y a cette. Dans le Figaro, c'est une tribune qu'elle signe dans le Figaro, cette phrase qui a retenu mon attention où elle dit « L'immigration étrangère irrégulière est difficile à maîtriser parce qu'elle est la conséquence d'une politique migratoire qui n'en est pas une et qui repose essentiellement sur des droits ». Est-ce qu'elle a tout dit une fois qu'elle a dit ça ?
Elle a tout
dit. Pour faire valoir ses droits, ça c'est la conclusion, il vous suffit de mettre un pied en Europe.
Et une fois que vous avez mis un pied, c'est fini.
Voilà.
Parce que là, vous êtes protégé par le droit national et surtout par le droit européen, donc vous n'êtes plus expulsable. C'est la différence entre ce qui se passe en Europe et en France singulièrement et d'autres pays où c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un titre de séjour. Si demain vous voulez rentrer, vous installer au Maroc, vous allez voir à quel point c'est simple.
Vous savez,
Mais en Europe, tout est fondé. Il y a eu un détournement complet des règles qui avaient été construites après la guerre, qui étaient des règles pour les réfugiés politiques et qui sont aujourd'hui appliquées sans discrimination à tout le monde. Tout le monde arrive et tout le monde a droit à tout parce qu'on considère que c'est l'obligation de l'Europe.
Mais c'est dans aucun texte,
ni de droit interne, ni de droit international.
Frontex qui est géré par l'Europe, ça existe. Moi, j'ai été sur leur site. Depuis 2022, il n'y a pas une publication. Et je ne sais même pas qui a succédé sur Frontex, vous savez.
Le français a été viré sans que le gouvernement français ne bouge.
Oui, mais bien sûr. On l'a viré parce qu'il commençait à parler trop fort et à dire qu'il fallait mettre des règles.
Et à repousser les.
On le met pour mettre des règles, il met trop de règles, on le vire. Ça y est, on a tout dit. Hein. Avec le pouvoir qu'a sur les lois, l'Europe sur l'immigration, voilà, on est.
Le but de Frontex.
Mais bien sûr qu'elle est voulue. Elle est assumée par l'Europe, totalement.
Le but de Frontex, théoriquement, c'était de protéger les frontières de l'Europe. C'est devenu le moyen de faire entrer, d'accueillir des immigrés. C'est là que le directeur précédent français qui essayait de faire son métier a été viré parce que la Commission et le Parlement européen ont jugé qu'il y allait trop fort sur ceux qui rentraient par la Grèce.
On va parler d'un chanteur dont les titres nous ont tous marqués, ne serait-ce qu'un été. Qui n'a pas dansé sur du Francky Vincent? Vous allez vous dire non, je ne vous croirais pas. Il a été nommé chevalier des arts et des lettres. Mais la polémique est vite arrivée parce que le personnage a quelques fréquentations décriées, douteuses même. Et hier, scène incroyable, il s'est enferré dans l'émission TPMP à ne pas répondre à une question qui était pourtant simple. Et à plusieurs reprises, les chroniqueurs lui ont demandé de répondre à cette question. Regardez la séquence.
C'est hors la loi, en fait.
Pour votre gouverne, sachez que...
Donc vous condamnez ou pas? Parce que vous avez toujours pas répondu.
Pour votre gouverne, sachez que...
Vous répondez pas, en fait.
J'ai une sœur qui a eu un enfant avec un juif.
Non, mais ça, c'est pas... Vous
voyez? Oui, je mange du coup de
J'ai un neveu qui est mélangé.
Non, mais c'est pas un totem.
C'est pas un totem. C'est pas un totem.
Non, mais je sais. Pas de totem, mais c'est ça.
Ah oui, mais
donc répondez simplement.
Je suis mal placé déjà pour être raciste.
Moi aussi, j'ai mangé du tzatziki, j'adore les pousses.
Et je suis mal placé pour être antisémite.
Alors pourquoi vous ne condamnez pas?
Et ça vous gêne pas du coup d'aller une schizophrénie d'aller à ce bal des quenelles en étant vous-même totalement contre l'antisémitisme?
Il faut qu'on arrête là.
Ne condamnez pas l'antisémitisme, monsieur Francky Vincent, devant des millions de gens. Et ceux qui vous ont écouté, tous ceux qui vous ont écouté, qui ont écouté vos chansons, vous ne pouvez pas leur dire que vous condamnez l'antisémitisme et que vous condamnez l'antisémitisme de Dieudonné. C'est trop fort pour vous de dire ça, monsieur Francky Vincent. Vous ne pouvez pas le dire ce soir.
Le dire que je condamne
l'antisémitisme.
Je suis pas juge. Non, mais je ne juge pas les gens.
Francky, ce serait bien de dire je condamne l'antisémitisme. Ça va calmer Gilles et nous aussi, ça va nous détendre.
Je viens de dire que ma sœur a eu un enfant.
Oui, ça n'a rien à voir.
Donc, oui, ce n'est pas la même chose. Moi, je suis mal placé pour être antisémite.
Est-ce que vous condamnez l'antisémitisme de Dieudonné, monsieur Francky Vincent? Est-ce que vous condamnez l'antisémitisme et la provocation à la haine raciale?
Je ne condamne pas.
Ne condamnez pas. Ne pas condamner l'antisémitisme, c'est entériner l'antisémitisme.
Non, mais il suffit de dire que
je n'apprécie pas du tout ça, mon
truc. Vous gêne.
Je ne condamne pas parce que je le répète, je ne suis pas juge. Je ne juge pas les gens.
Non, mais vous êtes un humain.
François Pupponi, c'est malaisant?
Ah bah c'est surréaliste.
Quatre fois, hein, et quatre fois.
Voilà, quelqu'un qui refuse publiquement de condamner l'antisémitisme, parce qu'il joue sur deux choses. Je ne veux pas condamner Dieudonné parce que je ne suis pas juge, mais il peut dire mais je condamne l'antisémitisme. J'aurais condamné Dieudonné aussi sur ses propos antisémites. Mais c'est surréaliste. Le problème, c'est qu'on connaît ses positions. Enfin, Francky Vincent, son rapport au judaïsme, son rapport aux femmes. Puis écouter ses titres. Le fait qu'il ait été décoré est surréaliste. Quoi. Parce qu'on connaît ses positions. Oui, il ne fait que dire ce qu'il dit depuis
toujours. On pourrait éplucher un minimum le CV et l'actualité de la personne.
Mais même, Chevalier des Arts et des Lettres, c'est rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Les chansons « Tu veux mon zizi », « Alice, ça glisse oui. ». C'est ça le rayonnement de la France dans le monde ? Ben, je ne crois pas. Déjà, rien que sur le choix, en dehors des non-réponses qu'il a fait aujourd'hui, il aurait dû mettre de côté. Il y en a plein de chanteurs qui pourraient être là dans le rayonnement au niveau du mondial. Voilà, excusez-moi.
Donc même artistiquement, le choix est contestable à la base, quoi.
Excusez-moi. Alors c'est un rayonnement sexuel et dans ce cas-là, c'est un autre prix, d'accord. Ça n'a rien à voir.
Pierre Lelouch, vous découvriez la séquence ou vous l'aviez déjà
vu ? Je découvre. Ouais.
Hein. J'ai vu que vous étiez un peu. Vas-y, quoi. Dis-le. Le type est quand même.
Concerné par ce type. Je suis concerné par ses chansons et je suis concerné que le gouvernement lui rende hommage. C'est un autre signe. Énième signe
de faiblesse
de la dégradation de notre malheureux pays, qu'on aille décorer des gens de ce niveau qui sont en plus des racistes, c'est complètement nul. Quoi.
C'est un choix direct du ministre de la Culture. Ouais, choix direct. C'est elle qui décide.
Ah oui, c'est elle qui décide, oui.
Rima Abdul Malak, c'est elle qui a choisi de le décorer. Quoi. Excusez-moi, vous êtes ministre.
J'aurais aimé lire son discours à elle pour savoir ce qu'elle a trouvé de génial chez ce monsieur. Et dans ses chansons, et dans son œuvre.
On va essayer de le retrouver. On vous le montrera.
Oui, ce sera intéressant.
Merci. On va s'interrompre à nouveau, et puis on reparlera des délestages avec un secteur auquel on n'a pas forcément pensé. Ce sont les stations-service. Elles reviennent dans l'actualité. Au devant de l'actualité, figurez-vous que s'il y a un problème électrique dans un secteur où il y a des stations-service,
eh ben, y a plus
il n'y en aura pas d'essence pendant 2 heures. Alors j'aime autant vous dire que si vous êtes sur la réserve, vous allez passer un sale moment et avec une pointe d'angoisse quand même. A tout de suite. De retour avec vous, et avant d'entamer la dernière partie qui sera passionnante, vous allez le voir, on va retrouver Mathieu Devez pour le Flash.
Olivier Véran se défend d'annoncer des coupures d'électricité cet hiver. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres. Dans la lignée du chef de l'État, il appelle à l'unité du pays. Selon Emmanuel Macron, les coupures d'électricité peuvent être évitées si la consommation baisse de 10%. Le procès du crash Rio Paris se poursuit avec les réquisitoires du parquet devant le tribunal correctionnel de Paris. Une journée marquée par la colère des parties civiles lorsque le parquet a écarté certaines fautes d'Airbus et d'Air France. Les deux entreprises sont jugées pour homicide involontaire. Le 1er juin 2009, le crash avait coûté la vie à 228 personnes. Un retour en force des épidémies hivernales. La grippe s'étend, la bronchiolite persiste. La grippe d'abord, selon Santé publique France, 9 régions sont actuellement en phase épidémique. Et la bronchiolite, quant à elle, touche essentiellement les bébés, à un niveau sans précédent depuis une dizaine d'années.
On va parler à nouveau de délestage dans cette toute dernière partie de 90 Minutes Info. Et on accueille aujourd'hui Francis Pousse. Bonjour, merci Bonjour. D'être là. Alors vous êtes président national des stations-service Mobilience. Ça représente un parc d'environ 6000 stations en France.
Tout à fait.
Donc c'est tout hors grande surface, n'est-ce
c'est
pas
C'est ça, exactement.
Tout ce qui n'est pas intégré.
L'ensemble des réseaux, y compris ceux sous-enseignes, qu'elles soient Total ou Esso, et les pompes blanches qui sont en campagne, des pompes qui n'ont pas de marque parce que de trop faible volume pour travailler avec eux.
D'accord. Alors on vous a fait venir parce qu'on aimerait comprendre aussi si les fameux délestages qu'on nous annonce, en tout cas qu'on envisage, auront des conséquences sur l'activité des stations-service, parce que ça fait partie des choses qu'on fait quotidiennement quand on roule avec sa voiture. Comment fonctionnent-elles les stations ? Est-ce qu'on a besoin d'électricité pour pouvoir aller prendre l'essence à la pompe ?
Ça ne vous a pas échappé qu'effectivement, on a besoin d'électricité. Et en cas de coupure, je vous annonce tout de suite que vous aurez une grande partie des stations-service qui ne pourront plus délivrer de carburant, puisque aujourd'hui, sur le réseau français, donc sur les 11 000 hein, du coup, vous avez quasiment que les stations d'autoroute qui sont protégées par un groupe électrogène, tout simplement parce que ce sont dans leurs obligations de service auprès des sociétés d'autoroute lorsqu'ils signent un contrat. la majorité des autres ne sont pas couvertes par un groupe électrogène parce que ce sont des investissements conséquents dont, heureusement, jusqu'à maintenant, on a rarement besoin. Donc vous aurez, si vous êtes dans une zone, si la station-service est dans une zone coupée, on a dit à peu près 2000 personnes, mais vous serez sur cette station-service l'incapacité de prendre du carburant.
Ce qui veut dire qu'on va revenir au scénario qu'on a connu il y a un mois ou deux. Quand on va vous prévenir la veille ou le matin même qu'il va y avoir des coupures, bah, tout le monde va se ruer en même temps vers la station concernée pour pouvoir avoir de l'essence parce que les gens seront peut-être sur la réserve à ce moment-là.
Alors déjà, il faudra que tout le monde soit prévenu puisque les canaux d'information ne sont pas encore très clairs. On parle pour l'instant de 17h.
Ce que disait Pierre Lelouch tout à l'heure.
Il faudrait plutôt que ça soit midi puisque nous, il faudra qu'on prévoie du personnel puisque pour un peu que vous ne soyez pas dans les horaires d'ouverture traditionnels de la station, il faut impérativement du personnel pour remettre en route la station. Ce n'est pas automatique. Donc, ces canaux d'information, effectivement, j'en ai pas
bien entendu. Combien de temps il faut pour remettre en route une station ?
Alors, s'il n'y a pas de bug informatique, si tout redémarre comme il faut, c'est très rapide, à peu près 5 minutes.
Donc, vous avez été contacté par des préfectures en vous disant, attention, ça risque d'arriver
Alors, non, organisation professionnelle, on est en rapport très couramment avec la Direction générale de l'énergie et du climat. Ces dernières semaines et ces derniers mois, on s'est parlé très souvent. Donc c'est un dossier de plus qui nous est tombé après la crise ou pendant la crise. Et on a réfléchi ensemble à ce qui se passait. Et j'ai informé, entre autres, la DGEC qu'il n'y aurait pas possibilité de prendre de carburant sur une station qui serait concernée par une coupure.
Mais ça veut dire, si on est très concret, que si vous êtes à ce moment-là, j'insiste, sur la réserve, je suis souvent sur la réserve, par exemple, vous devrez attendre 2 heures avant de pouvoir remplir votre voiture. Il ne faut pas être pressé pour aller travailler à ce moment-là.
Il ne va pas falloir rester en réserve pendant l'été, pendant l'hiver. Hein, ça, c'est important. Ça. Effectivement, si c'est une mauvaise surprise, il n'y aura pas de solution. On n'est plus comme il y a 40 ans où on avait encore des manivelles sur les pompes et on pouvait, en cas de coupure de courant, pomper. Ça, c'est fini. Puisqu'à l'époque, c'était plutôt courant, donc c'était une précaution. Maintenant, tout électrique dans beaucoup de corps de métier, d'ailleurs, est acquis. Et chez nous, il n'y aura pas d'autre solution, effectivement.
Ludovic Toro, vous avez une réaction peut-être, une question?
Oui, de toute façon, là c'est un cas, mais vous n'allez pas vous rendre compte de comment on va fermer l'électricité, ce qui va se passer. Les alarmes dans les maisons vont se déclencher, qu'on va remettre. Il va falloir qu'on mette tout en état, qu'on fasse reset. Ça va être infernal.
Mais chaque jour, on pense à un aspect nouveau,
mais oui,
et en fait,
mais
c'est infini.
Vous savez ce qui me dérange? Vont vous casser.
Pardon.
Les systèmes de chauffage.
Mais tous, ils vont les réparateurs qui doivent remettre tout à zéro. Je crois qu'on va les appeler tous. Mais c'est une utopie. Ce qui me dérange encore, est-ce qu'on n'a pas pu prévoir un jour un plan au cas où ça arriverait? Tout simplement, on le savait que ça allait arriver. On dit que c'est la guerre en Ukraine, mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est à cause de leur choix.
Mais quel genre de plan à l'échelle nationale, Ludovic?
Eh ben, c'est des plans qui ont fait maintenant en 5 jours. On aurait pu le faire en plusieurs années, c'est tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir une coupure de courant dans ce pays. La preuve, on dit qu'on va l'avoir. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prévoir tout ça? Et là, c'est au jour le jour, comme avec votre témoignage, qu'on se rend compte qu'on va être totalement paralysé.
Cela dit, si c'est 2 heures,
oui,
ça va.
C'est clair.
Les pompes sur autoroute resteront ouvertes dans les autres endroits.
Les services de secours sont auto-alimentés. J'entends les pompiers, les gendarmes, de manière générale.
Ils sont indépendants.
Ils prennent leurs précautions. Et c'est vrai que nous, en tout cas à côté commerce, il y a d'autres choses beaucoup plus graves. Personnellement, si je perds 2 heures de vente de carburant, je ne vais pas en mourir. Et je pense plutôt à des cas plus importants. Donc effectivement, on est devant un fait accompli. Par contre, c'est les modalités d'information qu'il nous faut plus rapidement, ne serait-ce que...
On en revient à ce que vous dites depuis le début de l'émission.
Allez-y,
je vous en prie.
C'est-à-dire que nous, mairie, on sera prévenu 3 jours avant. C'est-à-dire qu'on dira peut-être on va fermer. C'est-à-dire que d'après le préfet, 3 jours avant, vu ce qui se passe, vu la température qui va baisser, peut-être qu'on va fermer, mais c'est seulement la veille à 17h qu'on dira on ferme.
Oui, ce qui est déjà un peu tard, on l'aura compris, pour pouvoir se prémunir de quoi que ce
soit. Pour les mairies qui pourront mettre ça en place. Hein.
Puisque vous êtes là, et il y a beaucoup de questions d'actualité qui touchent et qui concernent même indirectement les stations-service, j'aimerais vous faire réagir à la confirmation par Elisabeth Borne de ce fameux chèque de 100 euros de carburant pour 10 millions de Français. On va l'écouter et puis j'aimerais voir avec vous, et parce que vous êtes au contact évidemment des consommateurs à la pompe, ce que ça représente réellement à l'échelle de leur consommation. Écoutons.
Comme le président de la République l'avait dit, on va continuer à protéger le pouvoir d'achat des Français, mais en ciblant davantage sur ceux qui en ont le plus besoin. Et effectivement, à partir du début de l'an prochain, on va mettre en place une indemnité carburant pour les Français modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail. Donc c'est 100 euros pour à peu près la moitié des ménages, ça représente une remise de l'ordre de 10 centimes par litre si vous faites par exemple 12 000 km par an, qui est la moyenne de ce que font les Français.
Pour un consommateur régulier, est-ce que c'est une aide conséquente ?
Alors, la moyenne nationale de kilomètres parcourus par an, c'est 15 000 km. Si on rapporte à une consommation de 7 litres, eh bien ça veut dire que 100 euros, c'est l'équivalent d'un an de remise à 10 centimes. En ce moment, on est à 10 centimes de remise de l'État, d'accord ?
Ouais.
Donc c'est l'équivalent d'un an.
Ça prolonge ça, quoi.
Voilà. Après, on a tendance à penser que les gros rouleurs, ceux qui font 40 km aller-retour pour aller travailler, sont plutôt dans les 25 000. Et là, il va en manquer à peu près 75 euros pour compenser.
Donc c'est bien si vous êtes un moyen rouleur, en fait.
C'est un moyen rouleur. Mais moi, j'ai alerté déjà le gouvernement sur un autre aspect. C'est-à-dire que là, on parle du consommateur, du travailleur. Mais il y a aussi l'employeur. Et je pense aux TPE, qui roulent beaucoup. Aujourd'hui, on n'a pas de mécanisme qui est annoncé, dans le cas où le carburant continue, enfin redevienne cher, puisque heureusement, pour l'instant, ça baisse. Il n'y a pas de mesure annoncée. Parce que dans une remise globale pour tout le monde, comme on a eu là, tout le monde en profite. Après, pour des économies que l'on peut entendre, puisque c'est 1 milliard l'an prochain contre 8,7 milliards cette année, on a souhaité cibler, soit. Alors après, les 5 déciles concernés, c'est peut-être pas suffisant non plus. Mais n'oublions pas les entreprises, parce que si les TPE, ça fait beaucoup.
Donc il aurait fallu cibler peut-être une aide pour les TPE. Réaction peut-être avant de se quitter sur le plateau.
C'est le monde de la technocratie avec le monde du réel, quoi. Ouais. Je comprends bien que chez Mme Borne, quelqu'un ait dit « Bon, alors voilà, 10 centimes multiplié par tant de mois, ça donne un chèque de 100 euros. » Mais si vous êtes à l'autre bout, dans la vraie vie, 100 euros, c'est un plein et demi. Ouais. Ben, c'est complètement ridicule.
Vous allez voir l'effet immédiat, mais c'est
ridicule. Ouais. Vous allez dépenser 1 milliard qui aurait pu être utilisé dans 1000 autres sujets d'importance aujourd'hui. Hein. Je pense y compris à notre défense nationale. Pour un chèque qui n'a aucune espèce de signification qui correspond. Pour quelqu'un, même modeste, c'est un plein.
On est dans le dérisoire.
Sur un an.
On ne va pas dire dans le symbolique, mais c'est effectivement, l'aide de 8 milliards par an était insoutenable. Bon. Donc là, on commence à dire aux Français, ça va être un peu moins que pour certains. Et puis bientôt, il y aura le chèque énergie le chèque énergie pour faire en sorte qu'effectivement on ne paye pas trop cher
l'électricité.
Qui va s'arrêter aussi. Donc, 2023, moi je suis extrêmement inquiet sur la situation économique pour notre pays et pour les Français. Parce que toutes ces protections qui existaient, mais qui nous a coûté extrêmement cher, vont petit à petit disparaître en 2023.
Déjà, on a zappé les retraités dans tout ça, donc on n'en aura pas l'argent, d'accord. Mais je voudrais dire, c'est un gouvernement de chèques. Il n'y a pas de vraie réforme. Comme ils n'ont pas réussi à mener des combats et à les réussir en santé, c'est des chèques. On file un chèque à l'hôpital, on file un chèque. Et c'est comme ça qu'on gère un pays. Oui. Il y aura des chèques de pain, des chèques de ça, mais c'est ça le pays moderne.
C'est le fameux chèque pansement.
Sauf qu'ils sont en train de se faire rattraper par la patrouille. D'une part, parce que ce n'est pas notre monnaie tout seul, c'est aussi la monnaie de la Banque Centrale Européenne qui a
tout
un moment, les autres vont dire peut-être arrêter de dépenser notre argent. Et deuxièmement, il y a un autre gendarme qui est le FMI.
Tout à fait, qui leur a dit qu'il faut arrêter. Donc, mais cherchons pas ce chèque, on le paiera.
Francis,
ça sera les impôts si on rembourse un jour.
Pour l'instant, s'il est bienvenu en quelques mots, il est bienvenu ou vous n'avez pas trop de retours sur l'annonce qui a été faite ?
On n'a pas trop de retours, surtout qu'on n'a pas tous les détails. Parce que, par exemple, vous devez saisir une carte grise. Mais est-ce qu'il faut que ça soit impérativement une carte grise d'une voiture qui vous appartient, est-ce que vous pouvez aller bosser avec la voiture de votre sœur ? Voilà, il y a encore des imprécisions.
C'est un peu fou, tout ça.
Je pense qu'on en aura d'autres.
Un peu comme les délestages. Merci beaucoup. On a bouclé la boucle pour aujourd'hui. Dans un instant, Punchline avec Laurence Ferrari. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition.
C'est encore une usine à gaz.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.